RFI minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette demi-heure d'information consacrée à l'actualité française.
À Nantes, dans l'ouest de la France, le procureur de la République Antoine Leroy a dressé cet après-midi devant la presse le portrait de l'adolescent qui a tué hier à coups de couteau une de ses camarades et en a blessé trois autres. Nous l'entendrons au début de ce journal. Alors que le programme alimentaire mondial annonce qu'il a épuisé tous ses stocks à Gaza, un groupe de 115 Palestiniens a atterri en région parisienne ce matin. Ils ont été évacués par la France. Alice Froussard était sur place. Et puis en football, depuis ce soir, le Paris Saint-Germain n'est plus invaincu dans cette saison de Ligue 1. Nice a battu le champion de France 3-1 au Parc des Princes.
24 heures en France.
Dans une douzaine de minutes, nous avons rendez-vous avec la photographe française Wendy Zaïbo. Elle explore des architectures ancrées dans l'histoire de la traite atlantique. C'est à voir au Festival de la Jeune Photographie Circulation à Paris. Enfin, avec Olivier Roger, nous nous intéresserons aux droits des artistes avec l'association Le Barreau des Arts, qui conseille bénévolement les artistes précaires et notamment les artistes étrangers.
RFI.
On en sait plus aujourd'hui sur l'adolescent qui a tué hier à Nantes une de ses camarades et en a blessé trois autres. Ce vendredi, le procureur de la République Antoine Leroy a raconté en détail l'attaque menée par l'adolescent de 16 ans. Un adolescent qui, avant de s'en prendre aux autres élèves, avait commencé par se scarifier. Le procureur Antoine Leroy a dressé son portrait.
Et c'est un jeune décrit par tout le monde comme étant extrêmement solitaire. Peu d'amis, voire pas du tout. Peu de dialogue avec grand monde, personnalité qui a inquiété sa mère, puisque c'est un jeune qui vit avec sa mère, puisque les parents sont séparés, à telle enseigne que sa mère a estimé opportun de faire en sorte qu'il rencontre des personnels éducatifs de la maison des adolescents de Nantes. Depuis janvier, ce jeune avait donc à 6 reprises rencontré des personnes susceptibles de l'aider. La deuxième chose, c'est que dans cette personnalité, il résulte assez clairement une certaine fascination pour Hitler. Cette fascination a été repérée par le personnel enseignant de l'école dans laquelle il était, de sorte qu'il a été convoqué avec sa mère la veille des vacances de Pâques. Troisième trait de personnalité, il s'agit d'un jeune à l'évidence suicidaire, à telle enseigne que ce jeune va sans doute rejoindre une unité susceptible de traiter cette tendance suicidaire.
Le procureur de la République Antoine Leroy. Ce drame de Nantes a rapidement pris une tournure politique. Le Premier ministre François Bayrou a demandé de renforcer les contrôles à l'entrée des établissements scolaires. Il a aussi chargé un groupe de travail de réfléchir à des propositions. Mais son ministre de l'Intérieur est allé sur un terrain plus polémique. Raphaël Delvolvé.
Le profil du tueur n'est pas encore établi et le procureur n'a pas encore communiqué quand hier, le locataire de Beauvau pointe l'ensauvagement de la société.
Ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme et qui a accouché finalement de toute cette violence.
Pour la gauche, le timing n'est pas le bon. Pour la maire socialiste de Nantes, Johanna Roland, l'heure n'est pas à la politique. Quand pour l'insoumise Manon Aubry, Bruno Retailleau fait de la récupération. Elle était sur France Info ce matin.
On n'en est qu'au début de l'enquête et je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Et on a quand même Bruno Retailleau qui se comporte un peu comme un vautour.
À l'extrême droite, le RN se pose en champion de l'autorité. Sur RTL, le député Sébastien Chenu tente d'employer des termes plus forts et dénonce par la même occasion la faiblesse de la réponse gouvernementale.
C'est plus qu'un fait de société, c'est un drame de notre société. La faiblesse de la réponse de l'État fait craindre que ce sujet ne soit pas pris à la hauteur à laquelle il doit être pris.
Plus mesuré que son ministre, François Bayrou dénonce lui la violence endémique d'une partie de la jeunesse et appelle à un sursaut collectif.
François Bayrou, justement, sa fille Hélène Perland avait révélé qu'elle avait subi des violences au sein de l'établissement catholique Bétaram. Nouvelle révélation, elle confirme dans une émission du site d'information Mediapart que son père a bien rencontré en 1998 le juge chargé d'une affaire de viol impliquant le directeur de l'établissement. Mais elle insiste, son père n'a pas cherché à couvrir les abus commis à Notre-Dame de Bétaram. Le député LFI Paul Vanier dirige la commission qui auditionnera le Premier ministre le 14 mai prochain. Pour lui, ce témoignage met gravement en cause François Bayrou.
Ces déclarations sont fracassantes parce qu'elles contredisent celles de son père. François Bayrou a longtemps nié avoir rencontré le juge Mirande et sa fille nous révèle que cette rencontre a bien eu lieu et qu'à l'occasion de cette rencontre, en 1998, François Bayrou, alors président du conseil départemental en charge de la protection de l'enfance, est informé des violences sexuelles des faits de viol à Bétarame. Il ne fera rien. La fille du Premier ministre nous révèle également que François Bayrou, lorsqu'il fait cette démarche d'aller chercher des informations auprès du juge Mirande, a conscience de violer le secret de l'instruction. Là encore, c'est une révélation extrêmement importante.
Le député LFI Paul Vannier. De nombreux responsables politiques ont publiquement exprimé aujourd'hui leur soutien à Yaël Braun-Pivet. La présidente de l'Assemblée nationale a publié sur les réseaux sociaux des exemples des menaces de mort antisémites dont elle est la cible depuis des années. Par exemple, ce jeudi à 18h, je cite « éliminer cette putain de juive ». Le président du Parti Socialiste Olivier Faure, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée Mathilde Panot, la présidente LR d'Île-de-France Valérie Pécresse ou encore le député UDR Éric Ciotti ont condamné des attaques antisémites écœurantes, lâches, intolérables.
24 heures en France.
RFI minuit 6 à Paris, vous écoutez 24 heures en France. On va maintenant s'intéresser aux déserts médicaux, ces zones où il est quasi impossible de trouver un médecin. Une proposition de loi est en discussion à l'Assemblée nationale. Son article phare qui régule les installations de médecins a été adopté. Mais il ne fait pas l'unanimité puisque de nombreux professionnels comme le gouvernement n'y sont pas favorables. En début de semaine prochaine, il y aura d'ailleurs un mouvement de grève et des manifestations. Pour faire face à cette colère, François Bayrou propose des mesures, notamment une mesure de solidarité qui obligerait les médecins à travailler 2 jours par mois dans les déserts médicaux. Laurence Théo a joint Anna Boctor, la présidente du syndicat des jeunes médecins. Elle accueille favorablement cette idée.
Ce serait une bonne idée parce que ça enlèverait les problématiques logistiques et notamment de locaux pour les médecins, parce que c'est souvent ça qui pose un problème pour aller s'installer dans ces endroits qui sont peu dotés en médecins. Du coup, ils pourraient exercer dans leur cabinet principal dans un lieu de vie qui correspond à leurs exigences de vie personnelle aussi. Et ils pourraient se délocaliser de manière ponctuelle chaque mois pour aller donner un coup de main dans ces territoires peu dotés.
Vous êtes donc médecin pédiatre à Nice.
Tout à fait.
Oui. Vous pourriez aller donner un coup de main dans une zone déshéritée ?
Je pourrais tout à fait, et d'ailleurs c'est quelque chose qui ne me dérangerait absolument pas, de consacrer par exemple une journée dans le mois de consultation de surspécialité ou de pédiatrie dans un territoire, par exemple dans l'arrière-pays, où il y a très peu de médecins.
Est-ce que vous seriez remplacé à votre cabinet ?
Ça fait partie des propositions que nous avons faites aussi dans notre syndicat, c'est de favoriser les remplacements et de permettre à un médecin qui travaille de se faire remplacer.
Anna Boctor jointe par Laurence Théo. À Gaza, les frappes israéliennes continuent. 12 personnes ont encore été tuées ce vendredi. Et le Programme alimentaire mondial annonce qu'il a épuisé tous ses stocks à Gaza. Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire. C'est dans ce contexte qu'un groupe de 115 personnes, évacuées de la bande de Gaza à la demande de la France, sont arrivées ce vendredi à l'aéroport d'Orly. Alice Faux s'arrêtait sur place.
Sur place, il y avait des applaudissements timides et surtout des larmes, des scènes d'embrassade après des mois de souffrance, d'attente et plusieurs faux espoirs. Parmi eux, il y avait Mohamed, un musicien de Gaza qui collectionnait les guitares, qui retrouvait sa femme et ses 3 enfants après 617 jours de séparation. C'est un miracle, nous a-t-il confié. Ces 115 Gazaouis arrivés en France ont donc pu retrouver leurs proches. Ils avaient d'abord reçu un SMS du consulat français à Jérusalem avec un point de rendez-vous. Ils ont été évacués de la bande de Gaza ravagés par la guerre, en bus, direction la Jordanie, pour y récupérer des visas avant de prendre un avion vers la France. Ce sont des personnes qui ont demandé une procédure de réunification familiale, c'est-à-dire qui ont un lien particulier avec le pays, des étudiants, des chercheurs, des artistes lauréats du programme PAUSE, des membres de l'Institut français de Gaza. Tous avaient cependant une pensée émue, presque coupable pour tous les Gazaouis restés derrière, ceux qui n'ont pas pu fuir cette guerre.
Toujours de sources diplomatiques, 500 personnes ont été évacuées de Gaza par la France depuis l'attaque du 7 octobre. C'est une première dans le pays. La cour d'appel de Rouen déclare un capitaine de navire et son armateur coupables de rejet en mer de substances polluantes, et ce, sur la base d'images satellites. Après une relaxe en première instance, la cour d'appel de Rouen a finalement condamné le commandant du MT Guardians et la société Valsa Holding à 80 000 euros d'amende. Une condamnation qui doit permettre de responsabiliser et de dissuader les navires qui ne respectent pas les réglementations en vigueur. Igor Strauss.
Le 13 janvier 2021, l'Agence européenne de sécurité maritime détecte par satellite une pollution par huile végétale à moins de 18 km des côtes françaises. Grâce au système de suivi d'itinéraire, de navigation et des navires, ce dégazage illégal est rattaché aux Guardians, seul navire sur zone au moment des faits. Christina Barrault, juriste à la Fondation Surfrider.
C'est la première fois où un procureur a décidé d'engager des poursuites sur la base de la preuve satellite de ce rapport envoyé par l'Agence européenne de sécurité maritime. Avant, ça n'était pas encore arrivé.
Auparavant, seuls les flagrants délits pouvaient aboutir à des poursuites. Il fallait donc un bateau ou un avion pour faire des constatations directes. Pour Christina Barrault, l'utilisation des images satellites ouvre donc un nouveau chapitre dans la lutte contre la pollution marine.
Ça va permettre d'avoir plus de poursuites pour des navires pollueurs et plus de condamnations et donc un effet plus dissuasif. Et ça, ça va vraiment faire avancer le droit de l'environnement et le droit de la lutte contre les pollutions du milieu marin.
La Fondation Surfrider et l'ONG France Nature Environnement, partie civile dans ce procès, espèrent que cette condamnation fera désormais jurisprudence en France, en Angleterre et en Espagne. La détection par satellite a déjà permis de faire condamner des armateurs pour des rejets en mer de substances polluantes.
Minuit 10 à Paris, c'est l'heure du football. Le Paris Saint-Germain n'est plus invaincu dans cette saison de Ligue 1. Nice a stoppé l'invincibilité du club parisien, déjà champion de France. Lors de cette 31e journée, les Azuréens se sont imposés 3-1 au Parc des Princes avec un doublé de Morgan Sanson et un but de l'international burundais Youssouf Ndayishimiye. Écoutez le milieu de terrain du PSG, le portugais Vitinha.
Ils ont été réalistes dans le peu d'occasions qu'ils ont avaient. Ils ont marqué. Et nous, non. Nous, on avait plein d'occasions, comme un peu en début de saison. Et on n'a pas marqué. Et voilà, je pense que c'est à cause de ça, principalement à cause de ça. On est dessous parce qu'on voulait cette record d'invincibilité. On voulait ça, mais ce n'était pas possible aujourd'hui, malheureusement. Et voilà, il faut se focus sur Arsenal et le match qu'on a.
Oui, se concentrer sur Arsenal, puisque dans 4 jours, le PSG affronte ce club en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et puis sachez que Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, est visé par une plainte pour injure publique homophobe. Plainte déposée par Stop Homophobie. Selon l'association, le compte Instagram officiel de la Ligue 1 a diffusé samedi dernier une vidéo annonçant la rencontre entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, pendant laquelle on pouvait entendre un chant de supporters homophobes. Et si Stop Homophobie a porté plainte contre Vincent Labrune, c'est qu'elle l'a identifié comme directeur de publication du compte Instagram. RFI, minuit 12 à Paris.
24 heures en France, Christophe Paget.
Direction maintenant le Festival de la Jeune Photographie Circulation. C'est sa 15e édition. Il se tient au 104 à Paris jusqu'au 1er juin. Des artistes venus du monde entier y exposent. Parmi eux, la Française Wendy Zaïbo. Avec son projet Manson, elle explore des architectures ancrées dans l'histoire de la traite transatlantique. Car à travers l'histoire, les populations afrodescendantes ont façonné des habitats qui témoignent de leur savoir-faire, mais aussi de leur héritage. Wendy Zaïbo, au micro de Nour Margouzi.
Bonjour Wendy.
Bonjour Nour.
3 ans, c'est le temps qu'il vous a fallu pour réaliser ce projet, que vous avez choisi d'appeler Maçon, ce qui signifie en créole guadeloupéen les murs. Par le prisme de la photographie et du montage, vous mettez en relation différents types d'habitats vernaculaires dans l'Atlantique noir, plus spécifiquement au Brésil, aux États-Unis, en Guadeloupe et en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir choisi ces 4 territoires en particulier ?
J'ai commencé en fait en m'intéressant à l'habitat, un des habitats traditionnels de la Guadeloupe, c'est le territoire où j'ai grandi. Et en fait, petit à petit, j'ai eu envie de le mettre en conversation avec les territoires qui m'ont façonné, qui ont façonné mon parcours.
Ce qui est étonnant, c'est que des milliers de kilomètres séparent chacun de ces territoires. À quel moment l'histoire et les savoir-faire se croisent pour créer des habitats communs ?
Évidemment, la question coloniale a un impact sur cette question de l'architecture dans ces territoires. Il y avait des savoir-faire ancestraux qui existaient, qui, de par l'histoire, ont rencontré d'autres types de savoir-faire. Si on prend le cas des cases, notamment en Guadeloupe, à la base, les cases, c'est un héritage que l'on doit aux Amérindiens, donc aux premières populations de ces espaces caribéens, qui, eux, ont connu le premier génocide. Et ensuite, les cases ont été reprises par les populations européennes. Et ensuite, quand la traite a commencé, les populations européennes se sont orientées vers des cases utilisant des matériaux plus durs et les populations afro-diasporiques ont récupéré ces habitats.
Oui, et donc à travers ces différentes formes d'habitats, c'est aussi toute une histoire des migrations et des colonisations. Même si ces habitats restent souvent précaires, ils portent en fin de compte une symbolique assez forte. C'est pour ça que mettre en lumière cet héritage était important pour vous ?
Complètement. J'ai eu la chance, moi, de par mon parcours, d'évoluer, on va dire, académiquement dans plusieurs territoires et de me rendre compte justement qu'en fonction de l'endroit où je me trouvais sur la planète, on ne me racontait pas forcément la même histoire sur celles et ceux qui me ressemblent. Et donc oui, clairement, il y avait une volonté aussi de dire cette histoire-là, elle est importante. Nos histoires sont importantes parce qu'elles permettent aussi de se développer différemment, de prendre conscience de sa place dans le monde aussi différemment, de prendre la place dans son territoire différemment. Donc c'est comment je me rapproprie mon histoire, l'histoire de mes parents, de permettre aussi de se voir en fait dans les histoires que l'on se raconte.
Comme vous le soulignez, tout dépend de qui raconte l'histoire. Ce qui me fait un peu penser aux tiny house, ces petites maisons mobiles devenues symboles d'un mode de vie alternatif et écologique assez tendance. Pourtant, ce type d'habitat existait déjà dans certaines communautés afrodescendantes, comme en témoignent vos photos. Quand on en efface l'origine, n'est-ce pas une forme d'appropriation ?
La culture, c'est politique. Donc forcément, la manière dont on pense cette politique culturelle... Elle sert des idéologies, elle sert des manières de voir le monde, et c'est clair que si on continue aujourd'hui dans une logique très capitaliste, très coloniale, très impérialiste, oui, il y a une volonté de vouloir venir imposer une forme de culture et de peut-être vouloir venir en effacer d'autres. Donc c'est aussi comment on sonne l'alarme en disant que non, la pluralité, la multiplicité des savoirs, la multiplicité des cultures, c'est important, c'est une richesse, et ce qui permet aussi de venir proposer des solutions alternatives au chaos qu'on est peut-être en train de traverser en ce moment.
La Française Wendy Zaïbo au micro de Nour Marzougui. Le Festival de la Jeune Photographie Circulation se tient au 104 à Paris jusqu'au 1er juin. Intéressons-nous maintenant aux droits des artistes qui sont souvent démunis face aux acteurs de l'industrie culturelle, entre droits d'auteur, droits à l'image, droits voisins, tout cela est quand même un peu compliqué. Eh bien, une association française fondée par de jeunes avocats, le Barreau des Arts, apporte une aide bénévole aux artistes précaires et notamment aux artistes étrangers. Le Barreau des Arts qui fête ses 5 années d'existence. Reportage Olivier Roger.
Bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous ?
Ça va. Et vous ?
Avijit Ghosh est un peintre indien. Il vit dans un petit studio du 13e arrondissement de Paris. L'an dernier, il a fait appel aux avocats du Barreau des Arts alors qu'un imprimeur prétendait avoir des droits sur ses peintures.
Pour moi, c'est vraiment bien expérience. Quelqu'un, une société, une organisation, écoutez-moi.
Les avocats du Barreau des Arts ont étudié son dossier, puis adressé une lettre à l'imprimeur qui a abandonné ses demandes infondées. L'association gère ainsi une centaine de dossiers par an. Musiciens, plasticiens, comédiens, écrivains, tous les domaines artistiques sont concernés. Corentin Chimel, juriste et photographe, est l'un des cofondateurs de l'association.
Nous, on va prendre en compte deux critères, le fait donc que ça soit du droit d'auteur et que ça réponde aux critères de l'aide juridictionnelle, puisqu'on va aider des artistes en situation de précarité. Ensuite, on va transmettre ce dossier à un étudiant bénévole qui va travailler dessus, qui va appeler l'artiste, qui va réunir des pièces complémentaires, puis un avocat qui va prendre le temps de conseiller de manière vraiment personnalisée l'artiste sur sa problématique.
Le Barreau des Arts intervient sur les questions de droit d'auteur, les contrats, leurs déséquilibres possibles, les questions de plagiat et de contrefaçon. Lucie Tréguier, cofondatrice et présidente du Barreau des Arts.
Je pense que ce qu'on fait, c'est vraiment donner des outils en fait pour que l'artiste se sente en mesure de négocier face à parfois une institution ou un partenaire plus fort, entre guillemets, en tout cas qui est accompagné lui juridiquement, etc. Et donc d'être dans une position pour négocier.
L'idée générale est d'éviter d'aller jusqu'au procès. La plupart des cas se résolvent par la négociation. Aurélie Leroy, avocate.
Ce sera du règlement amiable du dossier. Donc on va aiguiller la personne en lui disant voilà, on te conseille de faire valoir tes droits de telle manière, de revendiquer tel fondement, et puis d'aller discuter avec la personne pour essayer de s'arranger, surtout dans le domaine de la musique qui s'y prête beaucoup.
75 avocats collaborent avec le Barreau des Arts. Tous le font pro bono, c'est-à-dire bénévolement. Lucie Tréguier.
Je pense que c'est une bonne balance aussi avec notre métier d'avocat. Ce qu'on propose dans le cadre du Barreau des Arts, c'est vraiment aider les plus précaires qui n'auraient pas accès aux droits. Et dans ma vision du métier, c'est quelque chose qui est important. Ouais.
Et dans les rares cas où l'artiste est obligé de faire appel aux tribunaux pour trancher un litige, le Barreau des Arts peut faire jouer le droit de suite et obtenir une prise en charge des frais d'avocat de leurs bénéficiaires.
Un reportage signé Olivier Roger, RFI, minuit 19 à Paris, 1h19 à Mayotte.
Le journal des Outre-mer.
Et à la une de ce journal des Outre-mer, une question. La dynamique démographique de Mayotte serait-elle en train, sinon de s'inverser, du moins de ralentir? Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir. Selon le bilan 2024 publié par l'INSEE, le nombre de naissances dans le département 101, nombre jusqu'ici bien supérieur à la moyenne nationale, aurait en effet assez fortement chuté l'an dernier. Précision de Dalouesh Daou.
Selon l'INSEE, la fécondité à Mayotte enregistre 8910 enfants nés de mères domiciliées sur le territoire. Ce chiffre est en baisse de 13,3% par rapport à 2023, soit 1370 bébés de moins. Cette baisse de fécondité concerne toutes les tranches d'âge. Pour les femmes âgées de 25 à 34 ans, l'indicateur conjoncturel de fécondité chute à Mayotte pour atteindre 3,6 enfants par femme. Le niveau atteint en 2024 est inférieur également à celui de l'année 2020 en pleine crise sanitaire de la COVID-19. Dans ce bilan démographique 2024 concernant ainsi le département de Mayotte, les trois quarts des bébés nés ont, comme les années précédentes, une mère étrangère, souvent comorienne. Les mamans sont en moyenne plus jeunes qu'au niveau national, avec notamment 5% des nouveau-nés dont la mère est mineure.
Océan Indien, suite avant de quitter Madagascar, le président français Emmanuel Macron s'est offert un accueil de rockstar à Akamassou, plus connu sous le nom de village du Père Pedro. C'est un lieu d'accueil pour les enfants très défavorisés de la capitale malgache, Antananarive, et de ses environs. Le président de la République a remis la Légion d'honneur au prêtre argentin, aujourd'hui âgé de 76 ans. Reportage à Madagascar, Laura Philippon, la première réunion.
Des chants, des applaudissements, des drapeaux. Dans le gymnase d'Akamassou, 10 000 enfants ovationnent avec ferveur le président français. L'accueil est digne de celui réservé au pape François en 2019. Antatiane est une étudiante d'Akamassou.
Je suis fière d'être venue à venir de président à la France. Et merci pour venir ici à Madagascar et visiter Akamassou.
Cette visite est un événement pour Akamassou, bâti par le père Pedro il y a 30 ans sur les ruines d'une décharge. Emmanuel Macron a salué la bonté et la volonté du père Pedro. Lui a voulu montrer la vivacité de son village.
Face à cette foule d'enfants, on ne peut penser que comment les aider à qu'ils aient un avenir plus digne, c'est tout. Je pense qu'il nous a étonnés par sa façon de se savoir adapter à la situation. Vraiment, merci au président de la France et c'est un encouragement.
Le père Pedro a reçu la Légion d'honneur, une reconnaissance qu'il a dédiée à tous les enfants d'Akamassou.
L'océan Pacifique pour terminer avec la décision du président américain Trump de lever l'interdiction de pêcher dans l'un des plus vastes sanctuaires marins du monde. Une décision qui a soulevé l'émoi en Polynésie française. Reportage Raihei Nadjarian.
C'est un retour en arrière pour l'antenne polynésienne de l'association Sea Shepherd. Ces défenseurs de l'océan s'inquiètent de l'avenir du sanctuaire marin placé sous juridiction américaine. Ils dénoncent les méthodes de pêche utilisées par les États-Unis, jugées destructrices pour les écosystèmes. Yves-Michel Denier, président de l'antenne polynésienne de Sea Shepherd.
Ce sont des navires qui pratiquent la senne, la pêche à la senne, ce qui existe de pire pour la pêche dans les océans. C'est-à-dire ça vide les océans avec des filets géants, des filets gigantesques, plusieurs kilomètres. Ils pêchent au satellite, ils pêchent à l'hélicoptère. Enfin, le poisson n'a aucune chance et avec cette pêche-là, elle n'est absolument pas sélective. On embarque tout. Tout ce qui traîne autour d'un banc de thonidés est pêché, est tué et rejeté mort à la mer parce qu'ils gardent que les thonidés.
Cependant, il est difficile d'arrêter la machine lancée par Donald Trump, puisque le sanctuaire fait partie de la zone économique exclusive des États-Unis.
C'est l'impuissance qui domine, on n'y peut rien du tout, on ne peut rien y faire. Alors si c'était les eaux internationales auxquelles ils s'attaquaient, là on pourrait certainement bouger, faire quelque chose. Mais dans les eaux américaines, on n'a strictement rien à faire. C'est complètement de leur ressort à eux. Alors c'est aux Américains peut-être de se réveiller un peu.
Autre source d'inquiétude, la possibilité que Donald Trump ouvre d'autres sanctuaires marins à la pêche commerciale. Une décision qui s'inscrit dans sa volonté affichée de restaurer la compétitivité des États-Unis en matière de pêche. Une chose est sûre, la décision de rouvrir cette aire protégée suscite une vive inquiétude chez les scientifiques et les défenseurs de l'environnement. Tous redoutent une mise en péril de la biodiversité marine, notamment dans un contexte mondial de crise climatique.
Fin de cette édition. Bonne soirée et bon week-end.
Merci Benoît Ferrand, bonne soirée à vous et bon week-end aussi.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
RFI, c'est de la radio, mais ce soir, on va quand même s'intéresser à l'image. Caroline Paré, pour son Conseil Santé, se penche avec son invité sur les complexes physiques.
Kourou Camara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute en Seine-Saint-Denis.
Oui.
Pourquoi certaines personnes sont-elles particulièrement vulnérables au jugement des autres, ce qui peut contribuer à faire naître des complexes assez handicapants?
En fait, tout dépend de la personnalité de l'individu. Donc, il y a des personnalités qui vont être plus susceptibles que d'autres. Un jugement, ça peut vraiment atténuer et apporter en fait un mal-être à cette personne.
Est-ce que cette sensibilité aux critiques, elle est plus importante à l'adolescence?
Oui, même, je dirais même à l'enfance, parce que tout vient en fait de l'enfance. L'environnement dans lequel on vit, dans lequel on grandit, donc ça peut venir beaucoup plus tôt.
Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut à chaque fois faire attention à ce qu'on dit à un enfant, ou finalement, au bout du compte, l'enfant peut quand même entendre certains mots, certaines choses?
Non, il faut faire attention. C'est très important parce qu'après, l'enfant peut grandir avec cette étiquette ou ce préjugé ou cette critique. Et par la suite, après, ça peut s'amplifier ou, ça dépend encore de la personnalité de la personne, faire un travail sur soi.
Y compris avec les petits surnoms, on veut être gentil, on donne un petit surnom et des fois, ça peut être très mal perçu.
Non, les petits surnoms, après, c'est mignon comme tout. Donc ça, il n'y a pas de... Si c'est Dumbo avec les grandes oreilles, là par contre oui. Là par contre c'est méchant. Et ça peut faire du mal après pour la suite à l'enfant, mais si c'est mignon, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup Kourou Camara. Aujourd'hui dans Priorité Santé, émission Questions de femmes, on va parler de l'arthrose, ces douleurs articulaires avec bien sûr toutes les questions des auditrices et un spécialiste à votre écoute, à 9h10, 1h10, temps universel, et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci Caroline Paré. 1h10, temps universel, c'est bien noté. On arrive à la fin de 24 heures en France, que vous pouvez évidemment écouter sur notre site internet www.rfi.fr et aussi sur l'appli Pure Radio. Mes remerciements à Fabrice Viollet qui était à la réalisation. Merci aussi à Charlotte Derouin, à la rédaction en chef. Dans quelques instants, place à Afrique Soir. Avant cela, évidemment, comme tous les soirs, on part à New York pour la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
20 petits points et revient à 40 114. L'indice du Nasdaq reprend 217 points pour atteindre 17 383. Le doute sur la nature des éventuelles négociations commerciales entre Washington et Pékin n'est pas levé, mais le fait que la Chine ait accordé des exemptions de surtaxes à certains produits américains est interprété par Wall Street favorablement. Le marché obligataire, en outre, est resté bien orienté aujourd'hui, ce qui a soutenu les marchés d'actions. Le rendement du T-bond à 10 ans retombe à 4,26. Pour le quatrième mois consécutif, le moral des consommateurs américains recule, selon l'indice de l'Université du Michigan. La hausse du cours d'Alphabet, la maison mère de Google, rassure un peu. Le leader du numérique rend compte de performances trimestrielles meilleures que prévues. Et les perspectives d'évolution des ventes de Google au cours des prochains mois, en dépit de la guerre commerciale et du risque de chute des dépenses en publicité, ces perspectives reste encourageante selon la direction de l'entreprise californienne. Les mauvaises surprises aujourd'hui viennent d'Intel, qui anticipe une baisse de ses ventes au cours du second trimestre. Le premier trimestre a profité d'une poussée anormale des ventes du géant des semi-conducteurs, et ce, à des clients qui redoutaient l'arrivée de barrières douanières. L'or cède près de 2%, mais reste au-dessus de 3 270 $ l'once, et l'euro s'effrite à 1,1360 $. Le baril américain de pétrole s'offre moins d'1% et revient à un peu plus de $63. Le Dow Jones aujourd'hui est pratiquement inchangé. Le Nasdaq récupère 1,3%. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones reprend tout de même 2,5% et le Nasdaq rebondit de 6,7%.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Transmettre la mémoire de la guerre d'Algérie, 70 ans après le début du conflit, malgré le silence des appelés qui perdurent, deux sœurs, Laurence et Claire Ponty, publient un témoignage rare, le journal de leur père, soldat en Algérie en 1960.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval,
tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Clôture de notre série du mois d'avril sur l'histoire des grands fleuves d'Afrique. Passage sur le fleuve Sénégal, fleuve de caprice, de légende, rive partagée dans une réplique de panafricanisme avec l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, avec le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Je vous raconte son histoire depuis l'Antiquité.
Afrique, mémoire d'un continent, tous les dimanches à 8h10 TU sur RFI.